Vous écoutez Let's Talk, le podcast de la Fédération des entreprises de Belgique. Dans chaque épisode, nous approfondissons des sujets qui sont au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Et plus important encore, nous mettons en avant des solutions ou des stratégies à même de faire la différence pour votre entreprise. Let's Talk part à la rencontre des secteurs en quête de réponses. Quels sont leurs atouts? Quels écueils ou obstacles rencontrent-ils? De ces échanges émergent des enseignements précieux, en mesure de soulager tous les entrepreneurs et de les aider à avancer dans la bonne direction, quel que soit leur secteur d'activité. Je suis Nathalie B et chaque premier mercredi du mois, je plonge avec vous dans un nouvel épisode de Let's Talk. Comment garantir un avenir plus durable pour chacun et chacune d'entre nous, tout en trouvant un bon équilibre pour nos entreprises? Aujourd'hui, nous parlons durabilité avec Indufed. Indufed qui est la fédération qui regroupe trois secteurs. Les producteurs de pâtes de papier et de carton, les transformateurs de papier et de carton et les producteurs et transformateurs de verre. Trois secteurs unis sous une seule et même bannière, celle de la durabilité et de la circularité. Mais ancrer ces principes au cœur des activités des entreprises nécessite une grande capacité à répondre à de nombreux défis qui sont à la fois économiques, réglementaires et comportementaux. C'est ce que nous explique aujourd'hui Thomas Davreux, Managing Director d'Indufed. Bienvenue dans Let's Talk. Bonjour Thomas.
Bonjour Nathalie.
Merci beaucoup de nous accueillir ici dans les bâtiments d'Indufed. C'est la première fois que je viens. Mais cette fois, on est à Bruxelles, au cœur d'Ixelles, et tout près d'une station métro en plus. C'est super.
Oui, tout est calculé. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous recevoir.
Dites-moi, il y a combien de personnes à peu près qui travaillent ici pour vous?
Nous sommes une quinzaine de personnes qui travaillons pour Indufed aujourd'hui.
15 personnes, mais qui s'impliquent toutes pour des centaines d'entreprises dans les trois secteurs que vous représentez et qui s'impliquent jour après jour pour accompagner toutes ces entreprises au niveau de la durabilité. Et donc aujourd'hui, on va parler justement de ce thème, durabilité, qui fait vraiment partie de l'ADN de votre fédération, en quelque sorte.
J'aime bien dire, en fait, que depuis des centaines d'années, nos industries font du verre avec du verre, du papier avec du papier. Donc la circularité, le recyclage, donc la durabilité, font vraiment partie de nos principes fondamentaux. C'est quelque chose qui existe chez nous depuis très très longtemps.
Et pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas bien votre secteur, concrètement, les activités de vos entreprises, on les retrouve où dans la vie quotidienne?
Alors Indufed représente toutes les entreprises, les usines qui fabriquent et qui transforment du verre, du papier, du carton en Belgique. Donc, vous pouvez imaginer que ça fait une liste assez considérable de produits. En fait, on passe du verre creux, donc une bouteille de parfum, une bouteille de vin, au verre plat, que ce soit des pare-brises, des fenêtres, de bâtiments, du verre, de la fibre de verre hein, dans les éoliennes, de la laine de verre pour isoler le bâtiment. Également, et alors au niveau du papier, bien, on a toute la gamme du papier graphique, en passant par les emballages carton, papier, le papier mural, les filtres à voiture, les filtres à air. Je suis en train d'oublier quand même un paquet de choses, mais ça vous donne un petit aperçu des produits qui sont produits en Belgique par nos membres.
Donc c'est un secteur très très large. Le thème de la durabilité est donc ancré dans votre ADN, comme vous l'avez dit, mais cette durabilité, ça fait déjà longtemps qu'on en parle, et entre-temps, on fait bien plus qu'en parler, parce que entre-temps, il y a des règles, des réglementations qui ont été mises en place pour nous aider justement à arriver à plus de durabilité, à plus de circularité au niveau économique. Je pense notamment au plan d'action de l'Union européenne sur l'économie circulaire, qui veut donc qu'on arrive à cette neutralité carbone de l'Europe d'ici 2050. Mais pour arriver à cela, bien sûr, il y a plusieurs étapes et il y a tout un tas de nouvelles mesures qui impactent nos entreprises, dont celle aussi de votre secteur. Mais ce qui est bien chez vous, c'est qu'en fait, vous êtes déjà pleinement dans cette durabilité. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une initiative récente qui vous permet quand même d'avancer au niveau de cette circularité économique?
Oui, donc effectivement, on ne part pas du tout d'une page blanche dans nos secteurs. Donc aujourd'hui, Et ça fait du bien de temps en temps de pouvoir faire un petit cocorico belge. Hein. La Belgique est un des leaders mondiaux au niveau du recyclage du verre creux et du papier et du carton. Donc on est à plus de 85% des taux très très importants de recyclage dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers, mais vous avez sans doute noté, j'ai parlé du verre creux. Il y a différents types de verres, il y a aussi le verre plat, le verre, la laine de verre, qui, eux, n'ont pas encore de filière en Belgique qui nous permettent de le recycler. Et donc là, vous me demandez de donner un exemple, eh bien, je peux vous en donner deux, en fait. Il y a des initiatives qui sont mises en place par deux de nos membres, enfin par plusieurs de nos membres, en fait, pour créer des filières, justement, pour la laine de verre et pour le verre plat. Aujourd'hui, on a un projet pilote, un four exclusivement destiné au verre, à la laine de verre de recyclage qui a été créé, qui fonctionne à Visé. Hein, et nous avons une initiative aussi de recyclage du verre plat qui est en cours en Wallonie pour l'instant.
Donc vous ne partez pas d'une page blanche, ce qui est un avantage dans ce cas-ci, car il y a quand même beaucoup de nouvelles contraintes qui viennent s'imposer au niveau des entreprises. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a quand même encore des obstacles à la circularité dans votre secteur, malgré le fait que vous soyez complètement ancré dans cette durabilité?
La raison pour laquelle il existe des filières de recyclage pour certains produits et pas dans d'autres, c'est parce qu'en fait, il y a une certaine complexité. Il y a une chaîne logistique à mettre en place pour recycler le verre plat, pour récupérer et recycler la laine de verre. Et ces chaînes logistiques ont un coût. Hein. Donc aujourd'hui, nos usines sont en fait tout à fait en mesure de produire des produits bas carbone à base de produits recyclés. Mais le coût que représente la collecte, le tri, la collecte, et le recyclage des matières premières, donc du verre plat de rénovation, de laine de verre de rénovation, est tel que le produit lui-même devient plus coûteux, le produit bas carbone. Donc on est dans un système où aujourd'hui il y a des solutions, nous pouvons offrir des solutions, mais le coût et la complexité de la chaîne logistique pour arriver à ces produits rend la chose assez onéreuse. Alors, il faut trouver des solutions. Hein. On doit travailler avec les autorités publiques pour trouver des solutions qui n'impliquent pas que ce coût revienne à une partie de la société, que ce soit le secteur du bâtiment, nos industries ou le consommateur final. Il faut trouver des solutions qui arrangent tout le monde et qui conviennent en fait à l'ensemble de la société pour qu'on puisse effectivement, en définitive, fournir des produits bas carbone à tout le monde en Belgique.
Et est-ce qu'au niveau technique, est-ce qu'il y a certaines contraintes, des limites? Donc, on a parlé du verre plat, verre creux. Le verre, en théorie, est une matière qui est vraiment fantastique au niveau du recyclage, vu qu'on pourrait, en théorie,
le recycler à l'infini.
Le refaire à l'infini. Mmh. Mais est-ce qu'il y a quand même, dans votre secteur, des contraintes au niveau technique, des limites auxquelles vous êtes confrontés?
À côté de ces freins techniques, technologiques, on a deux autres freins qui sont le frein de l'infrastructure et le frein financier. Donc l'infrastructure, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut électrifier son procédé, eh bien, de un, elle n'est pas sûre qu'elle aura de l'électricité parce qu'il y a une demande gigantesque et croissante d'électricité aujourd'hui en Belgique. Et de deux, elle aura besoin de plus gros câbles qui ne seront pas tout de suite disponibles, et pas tout de suite, ça veut dire parfois 3 ans, 5 ans, qui coûtent extrêmement cher, j'y reviendrai après, dans ce financement, mais qui ne sont pas là, de toute façon. Hein. Ça, c'est une première chose. Si l'entreprise décide, OK, pour moi, une des solutions, ce sera l'hydrogène, mais l'hydrogène, il n'est pas là, il faut l'amener, il faut des canalisations, il faut de l'infrastructure. Si une solution choisie par une autre usine est le carbon capture and storage, hein, qui est aussi quelque chose qu'aujourd'hui on mentionne de plus en plus souvent, de nouveau, il faut des canalisations, il faut de l'infrastructure. Là, c'est un frein tout à fait pragmatique, mais très très réel, que rencontrent nos usines, nos membres, dans leur quête, dans leur recherche de solutions pour décarboner. Et alors, le dernier point, qui est le problème financier, bah c'est très clair. Hein. Décarboner, changer ses procédés, changer ses machines, transformer ses machines, créer une nouvelle boîte de haute tension, ça coûte des millions qui s'accumulent et que les usines n'ont pas toujours, que les groupes n'ont pas toujours, mais on se heurte au souci des aides d'État au niveau européen et d'une homogénéisation des règles et d'une restriction des aides d'État qui doit absolument être remise à l'ordre du jour.
Au niveau des consommateurs, est-ce que vous remarquez que dans le changement du comportement de nos consommateurs, je pense par exemple à l'explosion de l'e-commerce qui fait que tous ces paquets, tous ces colis qu'on commande en ligne, eh bien forcément ils sont emballés souvent dans du carton ou dans du papier. Est-ce que ces changements comportementaux ont un impact indirect aussi sur votre secteur ?
Absolument, oui. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable ces dernières années et le Covid a donné encore un coup d'accélérateur à cette transformation du marché. On remarque que le papier graphique, hein, donc que ce soit au niveau des journaux, des livres, du papier imprimante, hein, etc., est en forte baisse au niveau de la demande des consommateurs, tandis que l'emballage papier et carton augmente autant au niveau de la demande que de l'offre, du coup. Il y a certainement une partie de cette augmentation de l'utilisation de l'emballage papier-carton qui est due, évidemment, à l'e-commerce. C'est tout à fait vrai. Mais, soyons clairs, le papier et le carton restent des solutions d'emballage extrêmement intéressantes pour les autres commerces. Hein. Il n'y a pas que l'e-commerce qui utilise le papier et le carton.
Donc, en fait, ce changement crée aussi des opportunités pour vos entreprises.
Ça dépend. La diminution de la demande de papier graphique, par contre, est un réel problème. Mais d'un autre côté, oui, voilà, certains souffrent, d'autres voient de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités s'ouvrir à eux, exact.
Quand on parle de durabilité, on pense souvent au recyclage. Le recyclage est bien sûr un des éléments essentiel pour arriver à limiter l'impact sur notre environnement. Mais il n'y a pas que le recyclage, il y a d'autres stratégies dites R. Comment est-ce que Indufed fait pour tenir compte de toutes ces autres stratégies R et pour les incorporer dans sa vision ?
On va commencer avec la réutilisation. Hein. La réutilisation est une des autres stratégies qui peut être tout à fait vertueuse également. D'ailleurs, le verre est un matériau qui se prête parfaitement à la réutilisation. Mais un bémol que j'aimerais ajouter ici, c'est qu'on a parfois un peu l'impression que la réutilisation devient un peu une religion, une idéologie pour certains. Il est très important de se rendre compte que le recyclage et la réutilisation sont deux systèmes qui vont côte à côte, et qu'il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque situation est unique et doit être analysée sous son propre ensemble de facteurs. La distance à transporter, le type de matériau utilisé, le type de produit qui est transporté, la chaîne logistique, la chaîne de, hein, qui est impliquée, combien d'échelons dans la chaîne. Est-ce qu'il faut nettoyer l'emballage ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Est-ce qu'il y a une possibilité de recyclage, une usine qui peut recycler à proximité ? Il y a une infinité de facteurs qui font qu'une solution sera en fait préférable d'un point de vue environnemental à l'autre. Et donc, les deux solutions doivent pouvoir être prises en compte sans a priori et sur base d'arguments, d'éléments scientifiques et factuels. Alors, à côté de ça, on a aussi l'aspect réduction, hein, la sobriété. Et là, vous avez mentionné l'e-commerce, et on a tous vécu l'exemple de l'e-commerce. On reçoit une grande boîte dans laquelle il y a une moyenne boîte, et puis dans la moyenne boîte, il y a le produit qui est tout petit. Hein. Mais bon, il faut bien se rendre compte que l'e-commerce ne reste qu'une fraction de l'usage de boîtes en carton, d'emballage en papier en carton dans le monde de l'emballage, et que plus de 95% des emballages sont en fait faits sur mesure pour le produit qu'ils emballent. Donc, l'usage du matériau est optimisé en fonction de ce qui est emballé. Nous luttons, bien entendu, contre le gaspillage, contre ce suremballage. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. Nous travaillons également avec nos membres qui s'y sont engagés depuis des dizaines d'années sur l'éco-design, comment mieux recycler. Mais donc, c'est important de se rappeler vraiment que la plupart des emballages sont faits sur mesure pour l'objet qu'ils emballent.
Il y a un peu plus d'un an maintenant, Mario Draghi, qui est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, remettait à Ursula von der Leyen son rapport sur l'avenir de la compétitivité européenne. Dans ce rapport, Draghi, il soutient les ambitions climatiques de l'Union européenne d'une part, mais tout en précisant qu'il faut quand même trouver un équilibre pragmatique entre la durabilité environnementale et les réalités économiques. Comment est-ce que, selon vous, l'Europe et la Belgique peuvent justement avancer et concilier ces deux éléments ?
D'abord, c'est important de dire que nous pensons que ces deux éléments sont conciliables, que c'est tout à fait possible. Et par ailleurs, que les objectifs du Green Deal et du Clean Industrial Deal sont tout à fait vertueux et que nous les soutenons aussi. Mais M. Draghi a parfaitement raison de dire qu'il y a des éléments qui doivent être revus. Moi, j'aimerais apporter trois points. Donc, le premier, qui ressort très clairement du rapport Draghi, c'est le besoin essentiel de simplification administrative. Nous sommes d'accord avec les objectifs du Green Deal, du Clean Industrial Deal, mais le chemin qui est choisi aujourd'hui, qui est développé aujourd'hui pour arriver à ces objectifs, est beaucoup trop compliqué et n'apporte absolument rien à l'atteinte de l'objectif. Donc, il faut simplifier, il faut aller droit au but et il faut éviter de surcharger nos entreprises avec des exigences qui, en fait, n'ont pas de valeur ajoutée. C'est ça le premier point et qui est vraiment essentiel parce qu'on est en train de noyer tout le monde aujourd'hui. Deuxième point et qui touche plus particulièrement les secteurs que nous représentons chez Invidufed, donc le verre et le papier, c'est que, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, mais que pour assurer une transition climatique, nous avons besoin d'électrification, d'électricité. Hein. Donc là, nous devons avoir accès à un mix énergétique, à un mix qui soit juste, efficient et diversifié. Donc il faut pouvoir penser de manière ouverte et sans préjugés au nucléaire, à l'hydrogène vert, à la capture de carbone, à toutes les options sur la table aujourd'hui. Hein. Et ça nous amène donc au troisième point. Donc, je ne vais pas développer plus parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'en arrive alors au troisième point, qui est le financement et le problème des aides d'État. Et alors là, donc, vous savez qu'en 2020, pendant l'Union européenne s'était dotée de règles concernant à limiter les aides d'État très fortement, jusqu'en 2020, pendant le Covid, où ces règles ont été assouplies. Nous ne sommes pas assez revenus en arrière, et donc aujourd'hui, un État comme la Belgique, qui a fait le choix de la sobriété et du redressement de ses finances publiques, que nous soutenons d'ailleurs tout à fait, hein, soyons clairs, mais la Belgique se retrouve entourée d'États qui, eux, soit ont des réserves nettement plus importantes, soit qui n'ont pas du tout choisi de retourner vers des finances publiques saines. Et donc, soyons tout à fait clairs, les subsides que ces autres et les aides diverses et variées que ces autres pays offrent à leurs industries font qu'aujourd'hui, la Belgique n'est plus un pays attirant pour développer la décarbonation, pour opérer la transition climatique pour les grands groupes industriels. Et que ça complique extrêmement la vie à nos PME qui, elles, n'ont pas la possibilité de se délocaliser.
Autre nouvelle règle, nouvelle entre guillemets, car en fait elle existe déjà depuis 2023, mais elle va seulement entrer en vigueur fin de cette année, je pense au règlement européen contre la déforestation, qui vise en fait qu'aucun produit importé mis sur le marché de l'Union européenne ne contribue à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Encore une fois, une réglementation qui me semble assez ambitieuse, qui semble aller loin. Et si je ne me trompe pas, elle impacte aussi votre secteur, vu que les produits dérivés sont aussi concernés. Donc, parce que dans cette réglementation, on parle entre autres de cacao, café, caoutchouc, mais aussi le bois. Et donc, dans les produits dérivés, eh bien, il y a aussi le papier.
La première chose à dire, c'est que nous soutenons évidemment les objectifs de cette réglementation. Hein. Nous sommes évidemment contre la déforestation ou la dégradation forestière. Mais bon, là, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que ça fait plus de 25 ans que les usines de nos secteurs papetiers se sont engagées de manière volontaire dans des systèmes de certification durable PEFC et FSC. Donc, avec des efforts financiers en énergie, en temps vraiment considérables, pour pouvoir démontrer la traçabilité et la durabilité de l'origine de leurs produits. Donc, pour petit rappel, hein, ces systèmes PEFC et FSC sont audités par des tierces parties, ce n'est pas des trucs qui sont annoncés comme ça sans la moindre preuve, c'est audité par des tierces parties, et donc on peut remonter, on peut tracer l'origine des produits et donc démontrer leur légalité et l'absence de déforestation dans ces produits-là. On n'a pas attendu la commission pour le faire. Ça fait très longtemps que c'est en route. Et aujourd'hui, cette réglementation qui impose toutes sortes de reporting, de mise en place de procédures additionnelles pour toute la chaîne de valeur, n'apporte en fait rien. Hein. Un check à l'entrée, à la limite, oui, hein, mais continuer à imposer des règles supplémentaires à toute une filière qui était déjà prête, qui peut déjà démontrer la traçabilité de ces produits et la durabilité de ces produits, ça nous semble de nouveau complètement excessif. Par rapport au but, à l'objectif choisi, qui de nouveau est totalement vertueux, que nous soutenons à 100%, mais pratiquement, je pense que pratiquement chaque usine, chaque entreprise de notre secteur est certifiée PEFC, FSC ou les deux.
Ce problème de traçabilité dont vous nous parlez me fait penser à ma conversation avec Carla Bosselier de Fedustria dans l'épisode précédent de ce podcast, où justement nous parlions de l'e-commerce et de la difficulté de tracer le textile, dans son cas, provenant de pays étrangers en dehors de l'Union européenne. Et justement, elle soulignait le fait que, paradoxalement, lorsqu'on commande des produits à l'étranger, eh bien, on ne sait pas exactement d'où ils proviennent, mais ces pays-là ne sont pas soumis aux mêmes règles que les pays de l'Union. Et donc, du coup, à ce niveau-là, il y a aussi un énorme problème de concurrence. Est-ce que, dans votre secteur, vous avez aussi ce même problème que nos entreprises sont soumises à beaucoup trop de règles par rapport aux autres d'autres pays qui ne doivent peut-être pas suivre ces mêmes réglementations.
Oui, sans doute dans une moindre mesure que dans le textile. Hein. Donc nous avons des produits papetiers effectivement qui souffrent de ce problème-là. Je pense que c'est pas du tout dans un problème d'une envergure similaire. Par contre, ce qui pose réellement problème pour certains de nos sous-segments, comme par exemple la fibre de verre, c'est le dumping économique auquel ils font face. Et ça, c'est une réalité. Et là, la Commission pourrait faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des règles anti-dumping, mais qui sont d'une lourdeur, de nouveau, hein, d'une lourdeur absolument invraisemblable. Et les pays auxquels nous faisons face sont au contraire d'une agilité et d'une rapidité de réaction admirable. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, le temps que la Commission ait analysé une demande, une requête anti-dumping, etc., entre-temps, la production s'est déplacée du pays A au pays B.
Donc, est-ce que, selon vous, nous avons besoin de plus de règles à ce niveau-là pour faire en sorte que tous les pays puissent se conformer aux mêmes réglementations, vu que là, pour l'instant, il y a quand même une grande différence?
Non, non. Je ne pense vraiment pas qu'on ait besoin de plus de règles. On a besoin de moins de règles, de simplification. On doit garder nos objectifs à l'esprit, essayer d'y arriver de nouveau avec le plus de sobriété et de simplicité possible.
Mais il faut être plus strict.
Moi, je pense qu'on peut être plus strict,
mais nous avons
déjà un arsenal de règles existantes. Je pense qu'il faut commencer par appliquer ces règles de manière efficace, rapide, avant de penser à en ajouter d'autres. Et c'est un petit peu ce que je voulais, c'est tout à fait ce que je voulais dire quand je parlais des règles anti-dumping européennes. Elles existent, elles sont là. On a un arsenal qui permet de se défendre. Ils sont juste appliqués beaucoup trop lentement et de manière beaucoup, beaucoup trop complexe.
Vous nous avez déjà expliqué que votre secteur prend énormément d'initiatives au niveau de la durabilité. Vous n'avez pas attendu les différentes réglementations au niveau européen pour avancer, pour vous préparer. Est-ce qu'on pourrait dire en quelque sorte que le secteur d'Indufed joue quand même un rôle de pionnier en matière de durabilité?
Oui, je pense que le secteur verrier et papetier sont effectivement des pionniers, ont été des pionniers. Et souhaitent le rester. Et ils investissent lourdement chaque année pour continuer à être en tête du peloton des entreprises et des industries durables et circulaires.
Et au niveau du verre, on a déjà beaucoup parlé donc du verre plat, du verre creux. Vous nous avez parlé de la laine de verre qui est très performante en termes d'isolation thermique, mais il y a aussi les panneaux solaires, par exemple, pour lesquels on utilise le verre. Donc il y a quand même un lien assez fort entre le secteur du verre et le secteur de la construction et du bâtiment. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même aussi grâce au verre que petit à petit, le secteur de la construction peut justement s'inscrire dans cette durabilité et circularité?
Oui. Le verre a un grand rôle à jouer dans la transition climatique, en particulier dans le secteur du bâtiment. Pas seulement, évidemment, il y a plein d'autres matériaux qui entrent en jeu, mais le verre a certainement son rôle à jouer. Et d'ailleurs, beaucoup de nos membres offrent aujourd'hui des solutions bas carbone. On a parlé de la problématique du recyclage du verre plat architectural de bâtiments et de la laine de verre. Il faut peut-être aussi mentionner le fait, donc, qui est corollaire à ça, qu'aujourd'hui, ces solutions bas carbone sont plus onéreuses en général que les solutions habituelles et que donc, elles ne sont pas encore assez utilisées pour des raisons très simples, c'est que ça coûte plus cher. Et donc là, nous encourageons du coup les pouvoirs publics à faire preuve d'exemplarité et peut-être dans leurs appels d'offres de privilégier les produits bas carbone qu'offrent déjà les usines du secteur verrier.
Indufed est une fédération qui regroupe 3 secteurs. Vous représentez environ 291 entreprises en Belgique. Au total, cela correspond à combien d'emplois environ ?
Un peu moins de 20 000 emplois.
Un peu moins de 20 000 emplois, et vous visez quel genre de profil? Parce que ça doit être quand même très très large.
Oui, alors là, nous visons tous les profils en fait. Comme vous le dites, c'est extrêmement large. Ce sont des industries qui sont en constante évolution de toute façon. Donc en fait, les travailleurs dans nos industries bénéficient d'une formation presque continue, je dirais. Parce que les métiers changent, les procédés changent, la transition climatique veut que les machines évoluent également, et donc les habitudes sociétales également, donc au niveau ressources humaines, il y a énormément de modifications et de flexibilité aujourd'hui qui est demandée des travailleurs dans nos secteurs.
Et donc, si quelqu'un est intéressé de venir travailler dans votre secteur, c'est typiquement le genre de secteur où il pourrait vraiment apprendre on the job.
Oui, ça c'est... si quelqu'un est intéressé par l'industrie, si quelqu'un veut bien gagner sa vie, avoir des perspectives de carrière et des perspectives de développement personnel, je pense que nos secteurs sont réellement des possibilités attirantes. Comme je viens de le dire, donc aujourd'hui... Ce sont des secteurs en pleine évolution, et donc quel que soit l'âge du travailleur, on peut retrouver son compte. Ce sont des secteurs bien payés, je peux le dire. Hein. C'est des secteurs qui payent bien. Et ce sont des secteurs où on peut rapidement, si on a la volonté, si on a ce désir-là, évoluer très rapidement, très jeune.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui connaissent bien votre secteur, parce que quand on pense au papier carton, on a plutôt cette idée en tête d'une industrie plutôt classique, traditionnelle, alors qu'en fait, vous avez vraiment des besoins en termes d'innovation, d'automatisation, ça bouge, ça progresse, ça avance. Et en plus, vous visez tout un tas de profils. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour rendre votre secteur un petit peu plus glamour, surtout envers les jeunes ?
Vous soulevez un point très intéressant et assez complexe, en fait, parce que vous avez tout à fait raison. Nos secteurs ont une réputation, à tort, hein, mais ont la réputation d'être des industries traditionnelles, peut-être un peu poussiéreuses et pas tellement attirantes. Et donc... ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus de nos membres organisent des portes ouvertes. Et nous avons également soutenu des initiatives européennes ici en Belgique pour attirer des jeunes et leurs parents dans certaines usines. Alors, j'insiste sur le fait qu'on invitait les jeunes et leurs parents, parce que souvent, ce sont plutôt les parents qui ont une image un peu poussiéreuse de nos industries. Et donc, c'est très important pour nous qu'ils viennent ensemble. Et les réactions au sortir des usines sont assez parlantes en général. C'est très souvent de l'étonnement et de l'admiration, en fait, parce que les gens ne s'attendent pas à voir des usines aussi propres, des machines aussi neuves, et à avoir, en fait, des travailleurs qui sont essentiellement devant des écrans, avec des manettes, alors qu'ils s'attendaient à avoir des métiers lourds et plutôt pénibles. Donc on se rend compte que cette ouverture vers le public, et surtout vers les jeunes et leurs parents, porte ses fruits et permet de donner un coup de projecteur positif sur nos industries. Alors, ce que nous on fait au niveau de la fédération pour soutenir nos industries, c'est les aider au niveau de la formation continue aussi, hein, pour qu'on puisse continuer à offrir des vraies possibilités de carrière et de développement à tous les gens, à tous les travailleurs qui rentrent dans nos usines.
Donc je retiens qu'Indufed est vraiment un secteur non seulement durable, mais aussi très attrayant, innovant et très intéressant surtout. Merci beaucoup.
Merci.
Bloquez dès à présent dans votre agenda la date du prochain podcast Let's Talk de la Fédération des entreprises de Belgique. En compagnie de Hein Lannoy, CEO d'Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance, nous aborderons la question du rôle que jouent les entreprises d'assurance dans la gestion des risques pour que notre société puisse continuer de fonctionner et pour que les personnes qui la composent puissent vivre et bien sûr entreprendre. Rendez-vous le mercredi 3 décembre avec moi-même, Nathalie B, pour un tout nouvel épisode de Let's Talk. À bientôt !